si on prend rapidement la définition de l'événement du Larousse en ligne, tout ce qui se produit, arrive ou apparaît, fait d'une importance toute particulière, fait marquant de l'actualité, et en physique, phénomène considéré comme localisé et instantané, survenant en un point et un instant bien déterminé. Alors, tous ces éléments vont être tout à fait pertinents dans l'approche qui sera la nôtre. On y reviendra. En tout cas, je voudrais dire tout de suite qu'en tant que linguiste, donc, je vais considérer l'événement comme une construction langagière. Comment un procès se construit-il en tant qu'événement au sein d'un texte? C'est vraiment autour de cette question que va tourner mon exposé ce soir. Comment un procès se construit-il en tant qu'événement au sein d'un texte? Il faut ouvrir une parenthèse sur deux termes que j'utilise ici, texte et procès. En ce qui concerne la définition de texte, eh bien, je prendrai la définition suivante. Ensemble d'énoncés liés entre eux dans un contexte de production et de réception, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et on peut aussi citer le CECRL, donc le cadre européen commun de référence en langue, est défini comme texte toute séquence discursive, orale et ou écrite, inscrite dans un domaine particulier, etc. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'agit donc d'une séquence discursive, et contrairement au sens qu'il a dans la langue courante, un texte peut être aussi bien relevé aussi bien de l'oral que de l'écrit. Pour ce qui est du procès, si je reviens sur le Larousse en ligne, terme général qui englobe les diverses notions, action, existence, état, devenir, etc., que le verbe peut affirmer du sujet. Donc, dans son sens le plus général, on va utiliser le terme de procès aussi bien pour recouvrir les notions d'état que d'action. Et ceci est confirmé par le portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales, le CNRTL. Sa définition pour la linguistique, notion générale en laquelle se résolvent les différentes notions exprimées par le verbe, action, devenir, état. D'accord. Mais on peut également avoir une acception plus restreinte du terme de procès, et que l'on trouve également dans le CNRTL. En particulier, on dit d'un verbe qu'il indique un procès quand il exprime une action réalisée par le sujet de la phrase, que le verbe soit transitif ou intransitif, par opposition au verbe qui indique un état. Donc dans ce cas, le terme de procès va être lié à celui d'action, par opposition à état. Et dans ce sens particulier restreint de procès, on peut également faire une autre distinction qui va nous amener à la notion qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celle d'événement. En effet, procès peut recouvrir les notions distinctes de processus et d'événement. Donc, le processus va renvoyer au procès en développement, et l'événement va renvoyer au procès en tant que tel, considéré globalement dans son ensemble. Comment un procès construit-il en tant qu'événement au sein d'un texte? Eh bien, on pourrait également poser la question de cette façon. Comment ce procès va-t-il se comprendre comme quelque chose qui se produit, qui arrive, qui apparaît dans le texte? Comment va-t-il apparaître comme ayant une importance particulière par rapport aux éventuels autres procès du texte? Peut-être en tant que fait marquant de l'actualité, mais pas forcément. Peut-être seulement comme se détachant sur un fond textuel particulier. Et peut-être encore comme un phénomène localisé et considéré comme instantané, survenant en un point et un instant donné. Alors, il faudrait peut-être d'ailleurs nous attarder sur le sens de considérer comme instantané, hein, parce que c'est un point crucial dans l'analyse linguistique et très important à reprendre, à redéfinir en didactique, hein, même si on est parti du sens de concernant la physique, hein, dans la définition du Larousse. Donc c'est un des points que j'avais particulièrement développé dans la partie sur les grammaires, hein, du français, donc je ne le développerai pas forcément en réalité ce soir. Donc le cadre de l'analyse, nous nous placerons dans le cadre de la langue française d'une part, mais on pourrait, je pense, hein, poser la même question pour d'autres langues, comment chaque langue construit linguistiquement l'événement. Et également dans le cadre du récit au passé. Pour ce qui est simplement de la définition de récit, on peut reprendre rapidement la définition du dictionnaire encyclopédique des sciences du langage de Ducrot et Todorov, hein, qu'ils définissent comme un texte référentiel à déroulement temporel. Alors pourquoi ce choix du récit au passé, hein? Eh bien, parce qu'il me semble particulièrement pertinent dans la perspective de l'événement. En effet, l'événement se constitue linguistiquement en tant que tel, dans le cadre du récit, hein, où l'énonciateur construit sa trame narrative et en fait surgir l'événement, hein, et on s'intéressera au comment de l'affaire. Et d'ailleurs, si l'on reprend l'entrée récit du CNRTL, dont je parlais tout à l'heure, hein, on retrouve ce lien direct entre récit et événement, donc pour la définition de récit, présentation d'événements, action de rapporter des événements, propos rapportant des événements, et également narration détaillée que fait un personnage d'événements passés, etc. Alors j'ai utilisé à l'instant le terme d'énonciateur, donc simplement parce que je me suis un peu lancée dans les définitions, je vous redonne celle du lexique de linguistique énonciative, sujet produisant un énoncé à l'intention d'un autre sujet à un moment d'énonciation. Et également dans le guide pour l'analyse linguistique de Bouscarène et Chuquet, une petite citation concernant l'énonciateur. Le sujet énonciateur est langagier et se situe à la croisée du linguistique et de l'extra-linguistique. Il n'est pas un donné physique identifiable à un individu particulier situé dans le monde extérieur. Il est le reflet construit par l'énonciation elle-même de ce donné extra-linguistique. J'ai utilisé cette petite citation parce que elle va bien dans mon sens, hein, du fait que on va s'intéresser ici non pas aux événements de l'actualité ou du monde réel, hein, en tant que phénomène extra-linguistique, mais bien aux facteurs liés à la construction d'un procès en tant qu'événement au sein d'un texte. Donc ensuite, pourquoi le récit au passé? Ma foi, simplement pour avoir un corpus homogène. Hein. Et puis dans ce cas-là, il fallait faire un choix, récit au passé, récit au présent. Hein. Donc j'ai choisi le passé, éventuellement pour son intérêt didactique, qui constituera le second volet, hein, de ma problématique, qui va se centrer sur les corpus d'apprenants de français langue étrangère, FLE donc. Hein. Alors, construction de l'événement, facteurs intervenants. Je parlerai ici de la construction de l'événement comme il était question de la construction du sujet. Je sais pas, dans un colloque à Rouen en 2008, c'est au cas où vous ayez été à ce colloque. La construction de l'événement dans une approche linguistique et sans doute plus spécifiquement énonciative, hein, se conçoit dans le cadre d'un énoncé, lui-même entouré d'autres énoncés construisant ensemble un texte. Donc, quels sont les éléments qui interviennent dans la construction d'un procès en tant qu'événement? hein, encore une fois, d'un point de vue linguistique ou textuel et non extra-linguistique. Alors tout d'abord, le temps grammatical. Un premier facteur est le temps porté par le verbe correspondant au procès considéré, mais pas seulement, hein, le temps des autres verbes qui, du voisinage, hein, textuel, peuvent influer aussi. Alors, on va prendre un exemple. Donc, je partirai d'un texte, d'un corpus de FLE, qui s'appelle Ce FLE, qui vient de l'université de Lund, en Suède. Et la production qu'on va envisager en premier appartient au groupe de contrôle, c'est-à-dire à un groupe d'étudiants francophones. Hein. J'ai choisi d'utiliser ce corpus particulier parce qu'il va m'être utile, hein, par la suite pour étudier des productions d'apprenants de FLE. Alors, l'exemple en question, c'est le voyage en Italie. Donc, la consigne, c'était « Raconte l'histoire, le voyage en Italie ». Imagine que tu racontes cette histoire à une personne qui ne voit pas les images. Tu dois donc décrire les personnages, les milieux et les choses avec autant de détails que possible. Essaye d'écrire plusieurs phrases pour chaque image. Je vous préviens, comme il s'agit, hein, de la production d'une étudiante francophone et non pas d'un récit publié, on va retrouver, hein, les mêmes fautes qu'on peut trouver dans les productions de nos propres étudiants francophones. Hein. Bon, mais en tout cas, ça n'est pas ce qui va retenir notre attention. Hein. On pourra simplement remarquer qu'il n'y a pas d'erreur dans l'emploi des temps. Hein. Je ne parle pas de la forme, on a un découvrir hier au lieu de IRENT à un moment, hein, mais bien du choix des temps. Il était une fois deux amis qui voulaient partir en vacances en Italie. Autour d'une tasse de thé, les deux amis réfléchissaient à leur voyage et rêvaient déjà de leurs vacances. L'une rêvait de bronzer au soleil, tandis que l'autre pensait plutôt aux rencontres qu'elle allait faire. Au moment du départ, après avoir étudié la carte, elles s'aperçurent que leur valise ne tenait pas dans le coffre de leur voiture. Mais bref, on ne sait pas comment elles sont parties, avec ou sans valise, en route pour l'Italie, dans leur petite automobile verte. Sur le chemin, elles croisèrent quelques autres voitures. Le temps était parfait pour faire la route, car le ciel était bleu. À l'arrivée en Italie, elles s'arrêtèrent à l'hôtel avec leurs quatre valises qui avaient finalement tenu dans la voiture. Le réceptionniste de l'hôtel, qui portait un smoking et un nœud papillon, leur donna la clé. Arrivés dans leur chambre, les deux amis découvrirent que la vue de leur chambre donnait sur la mer. C'était magnifique. Exactement la même vue que sur le tableau situé au-dessus de leur lit. Elles déballèrent leurs valises, leurs petites robes d'été. Une fois tout rangé, elles se précipitèrent à la plage pour bronzer. Elles n'avaient pas oublié leur maillot de bain de pièces et leurs lunettes de soleil. Elles avaient choisi le meilleur endroit sur la plage, d'où elles voyaient les bateaux et où elles étaient près des cocotiers. Voilà, je ne sais pas si c'est en Italie, mais bon, voilà. mais vous allez voir, hein, y en a d'autres textes, bon, avec Barcelone aussi. Le soir, chacune mit sa plus belle robe, une verte et une bleue, et elles goûtèrent à la nourriture italienne dans un restaurant très chic. Puis, pour finir la soirée, elles décidèrent d'aller boire un verre dans un bar. Là, elles rencontrèrent deux Italiens bien bruns. le reste, je ne l'ai pas reproduit parce qu'en fait, il y a une rupture dans le récit et elle passe à un récit au présent. Alors, on voit ici clairement, je pense, comment s'organise, hein, le récit du voyage en Italie d'Eugénie. Alors, Eugénie, bien sûr, c'est un pseudonyme. Hein. Tous les étudiants du groupe de contrôle ont un pseudonyme qui commence par E. Donc, les verbes à l'imparfait servent à brosser le tableau. Hein, je vous laisse regarder à chaque fois. Les deux amis voulaient partir. Elle réfléchissait, elle rêvait. Plus tard, le temps était parfait, le réceptionniste portait un smoking, la vue était magnifique, et le reste est au passé simple, il va construire l'ossature du récit, hein, ce qu'il fait avancer, ses événements marquants, ce qui se passe, etc. Elles s'aperçurent, elles croisèrent, elles s'arrêtèrent, elles découvrirent, elles déballèrent, se précipitèrent à la plage, goûtèrent la cuisine italienne, décidèrent d'aller boire un verre et rencontrèrent deux Italiens. On reviendra éventuellement par la suite sur ces différences de valeurs aspectuelles hein, des temps passés du français, même si ça sera plus succinct que dans ma version initiale, hein, qui incluait l'étude détaillée de différentes grammaires et la discussion à cette occasion de divers exemples. On peut noter aussi, avant de poursuivre, que l'on peut différencier au niveau aspectuel le passé simple et le passé composé. Hein. Le passé simple ayant uniquement une valeur aoristique, donc aoristique, c'est-à-dire coupée du présent, en fait, la valeur aoristique correspond précisément à la valeur d'événement dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire renvoyant au procès en tant que tel, considéré globalement dans son ensemble. Hein, voilà. Alors que le passé composé va parfois garder un lien avec le présent. Mais en fait, dans la perspective qui est la nôtre, à savoir le récit au passé, hein, on peut dire que globalement, passé simple et passé composé sont équivalents, hein, ont les mêmes valeurs aspectuelles. Hein, et c'est pour ça que dans cet exposé, je ne distinguerai pas particulièrement passé composé et passé simple, mais je les opposerai plutôt en bloc à l'imparfait, hein, puisque d'ailleurs les problèmes didactiques viennent précisément de ce choix entre imparfait d'une part et passé composé ou passé simple d'autre part. Hein. Voilà, en bloc, on va dire. Alors, l'aspect lexical et le contexte discursif maintenant. On va voir rapidement l'importance du type du verbe considéré, qu'on appelle aussi aspect lexical, et la façon dont il interagit avec ce que l'énonciateur souhaite construire au sein de son texte. Donc, est-ce qu'on s'intéresse dans cette partie du texte à un sujet que l'on va qualifier de façon diverse, ou s'intéresse-t-on aux actions elles-mêmes qui construisent un récit, hein. L'énonciateur est-il en train de brosser le décor ou de faire avancer son récit par une série de procès et d'événements? Alors, on va également prendre un exemple et on va reprendre l'exemple précédent. Donc, on va pouvoir remarquer tout d'abord que un certain nombre d'occurrences de verbes portant l'imparfait se trouve correspondre au verbe être, hein, qui fonctionne ici comme copule. Le temps était parfait, le ciel était bleu et c'était magnifique. Donc on va retrouver la différence entre état, avec des verbes d'état à l'imparfait, et événement, verbe d'action au passé simple. Évidemment, le type du verbe est un facteur important, hein, mais bon, c'est pas totalement une surprise. On peut s'arrêter malgré tout sur certains verbes d'action. Donc on dit parfois imperfectifs ou renvoyant à des procès à bornes non confondues. Hein, ça dépend de la terminologie employée. Donc ces verbes ne déterminent pas en eux-mêmes le choix du temps ou la façon dont le procès est appréhendé. Hein. Donc si on prend dans l'exemple ici le verbe « rêver », elle rêvait déjà de leurs vacances, hein, l'une rêvait de bronzer au soleil. Eh bien, ce verbe est utilisé ici à l'imparfait, car il fait partie d'une description de la façon dont l'énonciateur construit le décor, la situation de départ. Donc, l'énonciateur commence par caractériser les sujets, les protagonistes de l'histoire, hein, en les plaçant au sein d'un procès, qui va être construit en tant que processus et non d'événement, hein, si on revient sur ma distinction tout à l'heure. Donc on pourrait dire que le thème de ces énoncés correspond à leur sujet. Alors, le terme de thème hein, est utilisé de manière extrêmement diverse, donc je dirais que l'emploi que j'en fais ici hein, se rapproche le plus du terme de départ de la relation prédicative dans la théorie des opérations prédicatives et énonciatives d'Antoine Cuglioli, mais franchement, je ne rentrerai pas dans ce détail. Je pense que l'utilisation que j'en fais est à peu près transparente pour tout le monde, je pense. Donc, voilà. Mais en fait, dans un autre contexte, ce verbe rêver, puisque je l'ai pris comme exemple, pourrait parfaitement être utilisé au passé simple et construire un événement du récit, un événement constitutif de l'ossature, ce qu'il fait avancer. Et dans ce cas, le thème correspondrait alors au prédicat. Donc, j'ai taper elle rêva dans un moteur de recherche, et puis j'ai trouvé immédiatement de multiples exemples. Donc je vais citer les deux premiers, pas pour leur qualité littéraire, mais parce que je trouvais que c'était les deux premiers après les exemples de conjugaison qu'on nous fournit toujours immédiatement. Donc le premier, Yo était une jeune princesse d'Héra, prêtresse pardon, d'Héra, fille du dieu fleuve et roi d'Argos, d'Inachos et de Mélia. Mais dans certains mythes, on trouve aussi Iassos et de Lucanée. Une nuit, elle rêva qu'elle devait se rendre au bord du lac Lerne et y rencontrer Zeus. J'ai fait un copier-coller, donc il y a des erreurs, mais c'était dans le texte. Bon. Ayant raconté son rêve à son père, ce dernier se renseigna auprès de plusieurs oracles de Delphes, de Dodone, mais seul l'oracle de Loxias d'Apollon donna une réponse qui affirmait que la jeune fille devait réaliser ce rêve, sinon toute la famille risquait de périr foudroyée. Elle se rendit sur les bords du lac et y rencontra effectivement Zeus. Est-ce la seule beauté de la jeune fille ou les enchantements de Lynx, la fille de Pan et d'Écho? Toujours est-il que le dieu en tomba amoureux et il s'unit à elle, mais il est vrai que tomber amoureux était pour Zeus chose aisée. Alors, on remarque ici immédiatement cette succession de verbes au passé simple qui structure le récit, dont le rêve est le point de départ, l'événement déclencheur. L'énonciateur commence par caractériser le sujet dont il va être question. Yo était une jeune prêtresse d'Héra, etc. Le centrage de l'énoncé se fait à ce moment-là sur le sujet. Et puis, dans les énoncés suivants, le centrage se fait maintenant sur les prédicats. C'est ce qui fait avancer le récit et construire les procès considérés comme des événements, points marquants du récit. Donc, elle rêva, c'est le point de départ, se renseigna, donna une réponse, se rendit, y rencontra, s'unit à elle, etc. Dans le second exemple, la nuit suivante, elle rêva d'eau, elle se noyait, mais continuait à respirer. « Tes parents ?» demanda Andrei. « Non, » répondit Aurélia en secouant la tête. « Ce n'était pas ça. Ce n'était pas un cauchemar. Je nageais, j'étais humaine, mais je pouvais respirer sous la surface d'un lac comme une sirène. » Une autre nuit, elle rêva qu'elle était suspendue dans les airs sur les ailes d'un ange et, la nuit suivante, elle rêva qu'elle était embrasée par un feu qui ne la brûlait pas. Chaque rêve lui laissait un tatouage. Donc là, on voit que le récit est structuré par la succession des rêves. Chaque rêve est construit comme un événement marquant, un tatouage, justement, et est décrit ensuite. Donc après la marque de sa survenance, elle rêva par des verbes à l'imparfait, ce n'était pas un cauchemar, elle était suspendue, etc. Donc on voit que le contexte discursif, entre ces deux exemples, où on a le même type de verbe, imperfectif rêvé au passé simple, par rapport à l'imparfait utilisé dans l'exemple de la production de contrôle, on voit donc que ce contexte discursif est aussi important finalement que le type du verbe. Donc un verbe imperfectif comme rêver, utilisé à l'imparfait, va servir à caractériser le sujet de l'énoncé et non à construire un événement du récit, comme c'est le cas dans les deux derniers exemples. D'accord ? Donc, aspect lexical important, mais contexte discursif aussi, puisqu'il y a certains choix possibles. Les autres marqueurs textuels, rapidement, on peut dire que la présence de divers circonstants va évidemment également intervenir dans la construction du procès considéré en tant qu'événement, puisqu'il intervient dans le tissage discursif, on pourrait dire. Dans les exemples survolés précédemment, on pourra remarquer, donc je vous les rappelle rapidement, au moment du départ, à l'arrivée en Italie, arrivée dans leur chambre, le soir, puis pour finir la soirée, là, une nuit, la nuit suivante, une autre nuit. Donc là, je passe les grammaires pour arriver à l'utilisation de corpus d'apprenants. Alors pourquoi s'intéresser au corpus d'apprenants? Eh bien, pour orienter ses recherches et éventuellement pour construire un cours de grammaire FLE, hein, il me semble essentiel de partir des difficultés même des apprenants. Hein. Donc, d'une part, savoir quel type d'erreur on trouve fréquemment, ça peut être intéressant. Par exemple, de savoir que même à des niveaux de maîtrise de langue relativement élevés, on continuera malgré tout à trouver des erreurs sur l'emploi des temps. Donc, je ne parle pas des conjugaisons, hein, mais bien du choix des temps. Ou dans le domaine nominal, on retrouve régulièrement des erreurs sur « de »,« des »,« du », hein, ce genre de choses. Mais il me semble peut-être encore plus intéressant de partir véritablement des productions de ses propres apprenants. Hein. Bon. Alors, dans ma version initiale, toujours, je proposais de voir quelques types de pratiques qu'on pouvait proposer pour exploiter ces corpus d'apprenants spécifiques en classe de FLE, comme la conceptualisation grammaticale, le feedback par les pairs. Mais là, on va se contenter d'étudier quelques exemples de production d'apprenants. Alors, on va regarder un corpus de production d'apprenants de FLE, qui est toujours le même corpus de FLE. Donc, c'est en tout petit, mais c'était déjà écrit précédemment et c'était pour avoir la place de la suite. Et plus précisément, le sous-corpus transversal stade D. Alors, le stade D, dans ce corpus, c'est classé par niveau, mais ça n'utilise pas les niveaux de référence du CECRL. Hein, c'est pas A1 jusqu'à C2, hein, mais A, B, C, D. D étant le niveau le plus élevé de ce corpus, en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est se demander comment le concept d'événement, hein, ainsi que les différents éléments qu'on a cités concernant les caractéristiques de la construction d'un récit au passé, peuvent aider à construire, je dirais, un feedback qui aidera ces apprenants à comprendre leurs erreurs. Voilà. Alors, on peut commencer par la production de Daisy. Tous les apprenants du niveau D ont un pseudonyme qui commence par D, hein, donc Daisy. Donc là encore, pour vous donner une idée, je vous le lis, même si c'est un peu long. C'est toujours à partir du même voyage en Italie. Hein. Donc, il était une fois deux femmes qui s'appelaient Sylvie et Simone. Ils avaient travaillé toutes ces vies pour pouvoir faire un voyage en Italie. Une belle journée, ils sont partis. Après deux jours, ils sont arrivés en Italie. Ils veulent vivre à l'hôtel Magnifico et ils ont reçu la clé pour leur chambre du réceptionniste Carlo. La chambre était merveilleuse. Elle donnait sur la plage et on pouvait voir l'eau bleue et le soleil qui brillait. Sylvie admirait la vue autant que Simone s'installait dans la chambre. Donc, pendant que Simone s'installait dans la chambre, ils avaient seulement une chambre, mais il y avait deux lits très confortables. Sylvie et Simone s'amusaient beaucoup. Elles passaient ses jours à la plage, au soleil. Ils ont vu des voiles sur l'océan et des oiseaux au ciel. C'était fantastique, un vrai paradis. Elles faisaient la connaissance de la cuisine italienne aussi, à leur restaurant favori, Taverna di Luigi, avec mon magnifique accent. Le soir, elles aimaient être au bar où elles ont bu du vin et parlaient avec le bartender Pablo. un soir, elles ont vu deux hommes qui sont entrés. Les garçons s'appelaient Don et Juan. Et ils ont devenu très gais d'y trouver deux jeunes filles, Don Juan donc. Et ils ont acheté l'alcool et tous les quatre ont bu ensemble. Sylvie s'est amusée avec Don et Simone a fait la connaissance de Juan. Ils ont dansé toute la nuit. Le lendemain, ils ont fait un tour de sightseeing en Barcelona. Un guide a raconté des histoires très intéressantes de la vie et les gens de la vie. Le soir, Sylvie et Juan se sont décidés de voir le soleil qui descendait à 9 heures. Ils le voyaient en silence, mais il ne fallait pas des mots parce qu'ils savaient qu'ils avaient trouvé le grand amour. Simone et Don sont allés au Ristorante Vita Bella. Hein ? Un homme a joué le guitare et il a chanté très bon. Simone et Don voulaient célébrer qu'ils ont décidé de se marier. Ils sont tombés amoureux tous les deux. La semaine était finie à toute vitesse. Sylvie et Simone ne voulaient pas rentrer en Suède, mais ils devaient. Elles étaient très tristes de laisser leurs amours nouveaux. Mais quand elles ont pris leurs valises pour partir, Don et Juan ont couru vers la voiture. « Attendez-nous, nous voulons vous accompagner à la Suède. » Don a dit « Simone, je t'aime. » Et Juan a chanté « Sylvie, ma chérie, je t'adore. » Ensuite, ils sont partis ensemble à la voiture verte pour commencer une nouvelle vie en Suède ensemble. Et ils étaient très heureux. Tout est bien, qui finit bien. Donc, Daisy hein, semble avoir bien intégré hein, la façon de construire un récit au passé. Hein. Elle commence par « Il était une fois hein, », même si bon, le genre demandé n'est pas un conte, hein, mais la tournure reste un bon moyen d'introduire les deux personnages principaux et de placer le récit dans un temps différent du moment de l'énonciation. Elle emploie l'imparfait, et le plus que parfait, pour caractériser ses personnages, hein, qui s'appelaient Sylvie et Simone. Ils avaient travaillé toutes ces vies, etc. Puis elle pose une rupture dans le récit, avec un premier passé composé, introduite. Alors cette rupture est introduite par un circonstant de temps. Une belle journée, ils sont partis. Donc on voit en effet que, alors on va dire « elles sont parties hein, », puisqu'ils disent « ils », mais enfin « ils », dit « ils », mais voilà, ne correspond pas à la valeur de présent accompli qu'on peut parfois trouver avec le passé composé dans un discours repéré par rapport au présent. Hein. Si je dis, par exemple, c'est pas dans le texte, hein, bien sûr, « elles ne sont pas là, elles sont parties en Italie hein. ». À ce moment-là, elles sont parties en Italie, ça a une valeur de bilan, c'est bien par rapport à maintenant, et l'important c'est qu'elles ne sont pas là, justement. Mais ce n'est pas le cas ici du tout, parce qu'on est bien dans un récit au passé, hein, et comme je disais tout à l'heure, ça a une valeur aoristique, hein, comme l'aurait eu un passé simple. Donc il s'agit bien de faire avancer le récit en fournissant l'action initiale du voyage. Hein, le départ. Donc on peut voilà, considérer, je l'ai déjà dit, que le passé composé a une valeur équivalente au passé simple. Alors, le caractère événementiel va s'accorder bien avec son inscription dans une série d'événements. Hein. Après deux jours, ils sont arrivés en Italie, ils ont reçu la clé pour leur chambre du réceptionniste. Viennent ensuite à nouveau des imparfaits, qui décrivent la situation, comment était la chambre, avec des verbes d'état, mais également des verbes de processus, comme s'amuser. Alors, la chambre était merveilleuse, elle donnait sur la plage, et on pouvait voir l'eau bleue et le soleil qui brillait. Ils avaient seulement une chambre et il y avait deux lits très confortables. Voilà. Sylvie et Simone s'amusaient beaucoup, elles passaient ses jours à la plage. Et on a également deux processus mis en parallèle. Hein. Sylvie admirait la vue donc pendant que Simone s'installait dans la chambre, qui servent eux aussi à décrire la situation. Et là encore, hein, on peut constater une bonne maîtrise dans l'utilisation des temps et de l'économie du récit. Alors, vient ensuite un énoncé plus discutable. Ils ont vu des voiles sur l'océan et des oiseaux au ciel. Donc là, l'utilisation du passé composé, hein, en rupture avec les imparfaits précédents et suivants, va fournir un effet saillant à ce procès. Or, il ne s'agit pas d'une vision qui aurait fait avancer le récit, hein, par son caractère déterminant, hein, c'est tout à fait différent d'un énoncé du même genre qu'on trouve un petit peu plus tard. Un soir, elles ont vu deux hommes qui sont entrés, hein, où on voit que là, on a bien affaire à un tournant dans le récit, hein, puisque c'est cette rencontre avec les deux Italiens, hein, qui marque clairement un tournant dans le récit. Or là, dans l'énoncé qui nous intéresse, ça fait plutôt partie de la description de leur journée à la plage, hein. Ce qu'elles voient, ma foi, ce sont des voiles et des oiseaux, et pas une voile ou un oiseau particulier qui aurait pu être le point de départ d'un rebondissement dans l'histoire ou quelque chose comme ça, hein, dans le récit. Donc là, il s'agit plutôt d'une vision banale en relation avec les circonstances associées, hein, alors sur l'océan, hein, bon, je passe sur la géographie, et au ciel. Donc il me semble que c'est sans doute le type de remarque, hein, que on pourrait faire à Daisy pour l'aider à comprendre que elle regardait les voiles sur l'eau et les oiseaux dans le ciel, par exemple, conviendrait mieux ici. Hein. Alors ensuite, une reprise des imparfaits qui marque bien le déroulement du séjour, verbe d'état, valeur itérative, construite par la présence du circonstant le soir, que l'on peut opposer au suivant, où on a un soir, qui, comme on l'a dit, va marquer un tournant dans l'histoire. Donc c'était fantastique, un vrai paradis. Elle faisait la connaissance de la cuisine italienne aussi, à leur restaurant favori. Le soir, elles aimaient être au bar, où elles ont bu du vin et parlaient avec le bartender. Un soir, elles ont vu deux hommes qui sont entrés. Donc un seul élément non cohérent ici. Donc le soir, elles aimaient être au bar, où elles ont bu du vin et parlaient avec le bartender Pablo. Là, on pourra sans doute, mettre en avant le lien avec les deux autres procès qui sont à l'imparfait, hein, et le fait que boire, en l'occurrence, hein, ne constitue pas non plus particulièrement un fait marquant dans l'histoire. Et de plus, ça reste sous la portée de le soir à valeur itérative. Le reste va montrer une bonne maîtrise de Daisy dans la construction d'un récit. On l'a vu, s'en vient le moment décisif dans l'histoire. Hein. Elle voit deux hommes entrer dans le bar. Un soir, elles ont vu deux hommes qui sont entrés. Puis, caractérisation des sujets à l'imparfait. Les garçons s'appelaient Don et Juan. Puis, succession de passés composés, correspondant à une succession d'actions qui font avancer le récit et racontent l'histoire. Le tout se terminant comme ça avait commencé, donc par une tournure, hein, de conte de fées ou de film hollywoodien, je ne sais pas. Et ils étaient très heureux, tout est bien, qui finit bien. Voilà. Une petite incursion dans la production maintenant de Dagmar, pour un énoncé à mettre en parallèle avec « Ils ont vu des voiles sur l'océan et des oiseaux dans le ciel ». Donc, je connais deux filles, elles s'appellent Théa et Béa. Elles sont les meilleures amies. Théa est mince, avec des cheveux marrons, et Béa est grosse, avec des cheveux blondes. Un jour, Théa et Béa ont décidé de faire un voyage en Italie. Théa, qui est folle des garçons arrivés des Italiens, avec ses cheveux noirs et ses sourires élégants. Béa a une peau blanche et voulait se bronzer dans la plage. Il me semble, hein, que le fait de rêver des Italiens, hein, a la même valeur que le fait de vouloir bronzer sur la plage, hein, dans le récit en l'occurrence. Donc, dans la mesure, il me semble, où ce rêve ne constitue pas un événement, hein, du récit, une action qui là encore marquerait un tournant dans l'histoire, mais caractérise plutôt le sujet, je pense qu'il faudrait conseiller là aussi à Dagmar de mettre ce procès à l'imparfait, hein, ce qui nous donnerait Théa, qui est folle des garçons, rêvait des Italiens, tandis que Béa voulait bronzer sur la plage. Voilà. Donc on peut maintenant jeter un coup d'œil à la production de Dana. Alors, Dana présente également une bonne maîtrise de la construction du récit, hein, en dehors du bon emploi des temps partout, sauf dans un cas que je détaillerai après. On peut remarquer une certaine gestion du suspense, hein, vous allez voir, et l'emploi structurant des circonstances tout au long du récit. Donc, je vais vous raconter de mon voyage en Italie. Tout a commencé quand moi et mon amie Johanna avons parlé d'un voyage en Italie. Nous avons parlé du soleil et des garçons dans un café. C'était le printemps. Après ça, nous avons parlé du voyage tous les jours. Qu'est-ce que nous allons faire et qui nous allons rencontrer? En été, nous avons pris la voiture pour partir en Italie. Après le dîner, nous sommes sortis dans un bar pour boire du vin. C'est maintenant quand le voyage a commencé à devenir intéressant. Racontez-vous? D'accord. Dans le bar, nous avons rencontré deux hommes italiens, Giuseppe et Antonio. Ils ont commencé à parler avec nous. Ils ont été à la même âge comme nous. Nous avons parlé beaucoup, moi et Johanna avons boit du vin et Giuseppe et Antonio ont boit de la bière. Je parlais avec Antonio et Johanna parlait avec Giuseppe. Après un moment, nous sommes entrés dans une discothèque, nous avons dansé toute la nuit. Le jour après, nous avons rencontré les hommes aussi. Nous sommes partis d'un sightseeing, etc. Donc, on va simplement reprendre le seul énoncé problématique du point de vue des temps. Hein. Donc, nous avons rencontré deux hommes italiens, Giuseppe et Antonio. Ils ont commencé à parler avec nous. Ils ont été à la même âge comme nous. Nous avons parlé beaucoup. Donc là, le passé composé concernant donc le « ils ont été à la même âge comme nous hein, » se trouve dans une succession de passés composés qui raconte l'histoire. Il y a donc une certaine cohérence. Hein. Donc, d'ailleurs, il n'y aurait pas eu de problème si on avait eu, par exemple, « ils nous ont dit qu'ils avaient le même âge que nous » ou « nous avons compris que nous avions le même âge ». Donc, en dehors de l'utilisation du verbe être au lieu du verbe avoir, hein, donc on peut réfléchir sur « ils ont eu le même âge hein, » puisque c'est le temps qui nous intéresse et non pas le choix du verbe. On voit que c'est la nature du verbe, c'est-à-dire un verbe d'état, hein, qui bloque l'utilisation du passé composé. Donc, voilà. En dehors des valeurs grammaticales, de l'importance des valeurs grammaticales du temps et de l'aspect, il ne faudra pas oublier, hein, encore une fois, l'importance de l'aspect lexical des verbes. On a un autre exemple du même genre dans le corpus. Donna, à l'hôtel, les deux filles ont fait le check-in. La chambre A était très bonne, avec deux lits et une grande fenêtre en face de la plage. Hein, donc, de la même façon, a été très bonne. Maintenant, la production de Didier, une partie seulement, hein, puisque bon, le temps nous est compté. Les deux amies vivaient comme des reines, mais Anna n'était pas tout à fait contente. Elle voulait rencontrer des hommes, mais il n'y avait pas des autres personnes sur la plage. Mais un soir, elle visitait un restaurant très respectable avec de la nourriture exceptionnelle. Mais comme le serviteur n'est pas très intéressé de Anna, elle restait mal contente. Après le dîner, elle visitait un bar et elle rencontrait Pablo et Marco. Donc, là, il ne s'agit pas de verbes d'état au passé composé, hein, mais de verbes de processus à l'imparfait. Donc, bien entendu, rien n'empêche hein, de mettre un verbe de processus à l'imparfait, puisqu'au contraire, les deux sont hautement compatibles. Hein. Mais le problème, c'est bien ici un problème de construction des événements. Hein. En effet, mettre ces procès à l'imparfait nous fait attendre soit une valeur itérative, ce qui n'est pas compatible avec les circonstances utilisées, un soir, après le dîner, hein, soit une valeur de cadre pour un événement qui, lui, viendrait faire avancer le récit et se trouverait alors au passé composé. Mais il n'y en a pas, hein, c'est pas le cas. Donc, l'événement marquant, c'est bien évidemment la rencontre avec Pablo et Marco. Mais elle est ici présentée à l'imparfait, ce qui bloque sa construction en tant qu'événement. Hein. Donc, on voit que ces procès à l'imparfait sont des procès qui devraient correspondre à des événements, comme le montrent aussi les circonstances qui les introduisent, comme une rupture avec ce qui précède. Mais bon, il faudrait pour que ça fonctionne, hein, qu'il soit au passé composé. Donc je passe sur constructivisme, conceptualisation grammaticale, socioconstructivisme et feedback par les pairs pour arriver à ma conclusion. La construction de l'événement, un cas d'école intéressant du point de vue linguistique, grammatical et didactique. Donc voilà, j'espère que cette présentation aura pu fournir quelques pistes exploratoires sur une façon d'aborder les phénomènes linguistiques jusque dans leur dimension didactique. Le cas de la construction de l'événement me semble un bon exemple, sachant les difficultés que gardent les apprenants de FLE dans le maniement des temps du passé, et aussi par l'attention qu'ils concentrent sur le fait que le sens est toujours une construction et non une donnée préexistante, et convoque de façon conjointe dans sa construction différents aspects qui sont malheureusement souvent évoqués de façon disjointe, que ce soit en linguistique ou en didactique, les niveaux grammatical, lexical et discursif. Voilà. Je vous remercie.